BPM, l'association de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission l'association de la semaine. Aujourd'hui, je reçois Jean-Marc Sémoulin, directeur de l'association La Gerbe. Jean-Marc Sémoulin, bonjour.
Bonjour.
On va présenter l'association, depuis quand existe-t-elle et quelle est sa mission?
Alors l'association, au démarrage, en fait, il y a plus de 30 ans maintenant, a commencé vraiment avec la partie humanitaire. Et puis elle s'est développée ensuite avec une partie insertion. Et puis encore, les dernières années, avec une partie ressourcerie. Donc elle a évolué comme ça. Mais au départ, on est vraiment parti en fait de la guerre en Bosnie, j'allais dire Ukraine, mais parce qu'en fait, on retombe aujourd'hui un petit peu dans les mêmes éléments qui nous avaient mis en route, en fait, de voir aux infos en permanence la guerre en Bosnie dans les années 90, 91, 92, voilà, a fait nous mettre en route pour démarrer des convois humanitaires. Et depuis juin 1993 jusqu'à aujourd'hui, est parti un camion tous les 2 mois. Et là, on est passé ensuite à un camion tous les mois. Et depuis la guerre en Ukraine, on est passé à un camion par semaine.
Donc vous êtes situé à Écquevilly. Alors, sachant qu'il y a deux associations La Gerbe en France, c'est ça?
C'est ça, on a une antenne qui est dans le Gard avec une fonction un peu différente. Donc c'est la même association, mais du coup plus... voilà, pour un public avec des personnes victimes de violences.
Et donc vous, dans les Yvelines, vous occupez donc de la solidarité internationale. Vous avez évoqué, sans faire exprès, l'Ukraine tout à l'heure. Donc justement, l'Ukraine, bon, on va parler maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez fait pour l'Ukraine depuis le conflit qui a éclaté au mois de février?
Alors peut-être un des points de base... Avant, c'est juste de dire que, en fait, habituellement, on ne va pas sur les zones un peu médiatiques. C'est pas le sujet de l'association. Par contre, quand on a des partenaires et qu'une catastrophe arrive, que ce soit un tremblement de terre ou une guerre, on maintient l'aide que l'on faisait. Et c'est le cas pour l'Ukraine. En fait, depuis 2009, on a des partenaires en Ukraine, donc qui s'occupaient de personnes handicapées, d'orphelinats, de personnes en insertion. Et comme c'était des personnes très engagées, ben du coup avec le conflit, des réfugiés sont arrivés pour leur demander de l'aide et elles se retrouvent un peu au cœur du système de distribution d'aide dans le conflit. Donc aujourd'hui, on envoie en Ukraine principalement de l'aide alimentaire, des produits d'hygiène et on fait un semi-remorque chaque semaine depuis le 24 février. Donc là voilà, ça nous a changé de rythme. On était à un par mois avant et là un par semaine.
Et donc, du coup, vos contacts là-bas, c'est quelle structure?
Alors, chaque fois, c'est des associations, en fait, sur place. Et puis, on en a découvert d'autres aussi en continuant d'accompagner. Donc, on rentre jusque dans le pays, en fait. On est quasiment en dessous de Kiev. Donc là, avec le semi-remorque. Ensuite, c'est déchargé. Alors, exprès un peu, je ne donne pas les villes parce que, en fait, c'est encore très sensible quand même. Et ensuite, ça part avec des camionnettes jusque quasiment sur la ligne de front. En fait, ou dans les villes, une fois qu'elles sont libérées, qu'elles peuvent de nouveau être accessibles, comme Boutcha, par exemple. Voilà.
Et du coup, comment vous avez pu juger la solidarité qui est venue pour cette cause spécialement?
Alors, on a été très impressionnés de l'aide. Nous, par exemple, même en termes de bénévoles, on est depuis février, on a 14 bénévoles de plus, en fait, qui se sont engagés un peu de manière permanente dans la structure. Et puis, on a eu presque une centaine de bénévoles qui sont venus ponctuellement pour donner un coup de main le samedi matin ou comme ça. Donc, c'est très impressionnant. Et puis, des volumes de marchandises collectées, donc aussi bien par des particuliers aussi que par des entreprises.
Alors, on va aussi parler des autres pays que vous aidez. Mais avant cela, on va finalement évoquer la manière dont vous les aidez avec vos deux actions principales qui sont le chantier d'insertion et puis la ressourcerie. Alors, le chantier d'insertion, ça existe depuis quand et à quoi ça sert?
Alors, le chantier d'insertion est en route depuis 2006, où on a reçu l'agrément et on a démarré avec 12 personnes en insertion. Aujourd'hui, on est à 40 salariés en insertion. Donc, les personnes rentrent chez nous parce qu'elles sont très éloignées de l'emploi, de situations très diverses. Ça peut être des personnes qui sortent de prison, par exemple, mais ça peut être des personnes avec un handicap, ça peut être des personnes qui n'avaient jamais travaillé et qui se retrouvent en situation d'emploi, enfin notamment suite à un divorce ou comme ça. Et puis, on a aussi beaucoup de réfugiés qui viennent d'avoir leurs papiers. Et en France, quand on a ces papiers, c'est qu'en général, on a été un peu torturé ou qu'on a subi de gros traumatismes. Et c'est des personnes qui, très souvent, ne parlent pas forcément la langue. Donc, du coup, pendant leurs heures de travail, il y aura beaucoup de français, en fait, pour leur permettre d'acquérir, en fait, des compétences beaucoup plus facilement en parlant la langue.
Du coup, il y a en plus de la formation, il y a un accompagnement social.
Socio-professionnel, oui, tout à fait. Et pour, donc, en lien toujours avec les assistantes sociales qui nous ont envoyé les personnes. Et pour régler, ben, très souvent, il y a des problématiques de logement, de dette, de papier, de famille aussi qui essayent d'être rapatriés. Donc voilà, d'essayer de libérer aussi l'esprit de toutes les autres problématiques et de me remettre en route vers l'emploi.
Et concernant l'emploi chez vous, donc du coup, c'est vous les employez à quelle fréquence, on va dire, par semaine?
Alors chez nous, ils vont être salariés avec 26 heures par semaine, y compris dedans ces heures, il y a de la formation, le français ou des formations comme le CACES, par exemple, pour apprendre à conduire des engins de manutention. Et puis il peut y avoir aussi de la formation très spécifique en fait par rapport au métier sur l'aide à la personne ou permis bus par exemple, enfin voilà, des choses où ils vont faire en extérieur une formation pour accomplir leur rêve ensuite de métier.
Et quels sont les critères du coup pour postuler chez vous dans ce chantier d'insertion?
Alors nous, on va pas avoir de situation qui nous fait peur en se disant bah non là c'est trop grave, il peut pas rentrer. On va surtout regarder est-ce que la personne est sur le chemin de remonter et voilà, et donc ensuite c'est les assistantes sociales qui nous les envoient, qui ont vérifié auparavant qu'elles ont le droit en fait d'être sur un chantier d'insertion. Et ensuite voilà, par rapport à la motivation, on va pouvoir recruter ces personnes pour un parcours vers l'emploi, donc en général donc un premier contrat de 6 mois qui peut être renouvelé voilà, jusqu'à un maximum de 2 ans, mais idéalement voilà, 1 an en fait. En général, on a des très belles sorties au bout d'un an vers l'emploi.
Et concernant du coup le travail en lui-même de ces salariés, donc en quoi consiste-t-il?
Alors on a essayé de travailler sur chacun des postes pour que ça ressemble le plus possible à un métier sur place. Donc par exemple, on a les personnes qui vont être en collecte et qui vont aller chez les particuliers pour collecter des meubles, du volume. Donc là, ça peut être un peu déménageur, ça peut être aussi chauffeur-livreur, par exemple, comme métier. Ensuite, on a tout un tas d'ateliers de tri, puisque par jour, on collecte 3 tonnes de marchandises chaque jour. Donc qu'on a été chercher ou qui sont amenés par les particuliers. Et donc, il faut trier ce matériel, en fait, le reconditionner. Alors, on a des ateliers, par exemple, sur le livre, où là, c'est un peu plutôt le poste préparateur de commandes qui est un peu travaillé, donc derrière un ordinateur, et où on va préparer des cartons, en fait, des livres qui sont retenus. Ensuite, il y a toute la partie dans la boutique, donc dans le magasin. Donc là, on est plus comme vendeur, en fait. On va faire face à un public pour... voilà. Donc ça fait naître des vocations et on va permettre à chacun de tourner un peu sur ces différents postes, puisqu'au début, ils arrivent en ayant peut-être un peu une idée de ce qu'ils aimeraient. Mais voilà, on va les pousser un petit peu pour essayer d'autres choses auxquelles ils n'ont peut-être pas pensé.
Dans cette action-là, il y a à la fois, du coup, cette récolte de matériel que vous allez envoyer à l'étranger, donc l'aide internationale. Et en plus de ça, vous avez pour vocation d'aider les personnes qui ont du mal à s'insérer dans la vie professionnelle.
Voilà, tout à fait. Donc du coup, ça permet vraiment, on dit un petit peu sur nos camions, est écrit, voilà, donner une deuxième vie à vos objets et une deuxième chance en fait à nos salariés.
Et donc, du coup, il y a aussi l'aspect de réparation des objets. C'est aussi un des ateliers que...
Alors, on fait un petit peu, mais en fait, très peu, parce qu'il y a un tel volume aujourd'hui. Quand on a commencé la partie chantier d'insertion, on était à 500 kilos par jour de marchandises et on est passé à 3 tonnes et ça continue d'augmenter. Donc ça, du coup, on est plutôt en train d'essayer de voir comment on peut gérer tout ce volume et on n'arrive pas encore à collecter tout ce qui est potentiellement donnable et donné sur le territoire. Donc, parce que je pense que de plus en plus, les gens sont sensibles aussi quand on vit d'une maison. on essaye de regarder s'il n'y a pas un Emmaüs, une ressourcerie, et on a moins le réflexe tout de suite, premier, j'emmène tout à la déchetterie. Donc ça, c'est vraiment on voit vraiment la différence ces dernières années, et c'est très intéressant d'avoir ces nouveaux réflexes en fait, qui sont là. Mais il faut faire face à l'afflux de marchandises.
Ouais, justement, 3 tonnes par jour, c'est énorme. Du coup, vous récoltez sur quelle zone géographique ?
Alors, on a réduit énormément. Avant, on allait jusque sur Paris. En fait, on était sur un rayon de 50 km. Aujourd'hui, on est sur un rayon de 15 km. Donc, on a accompagné beaucoup de porteurs de projets aussi pour que de nouvelles ressourceries puissent éclore. Là, par exemple, sur Mantes-la-Jolie, il y a aussi la ressourcerie Aptima et le magasin à petit prix, en fait. Et donc, voilà, du coup, on ne vient pas jusque sur Mantes. En fait, on essaye de se répartir comme ça entre ressourceries pour avoir des secteurs un peu de collecte.
Et du coup, au niveau du nombre de salariés, vous en avez combien ?
Alors, on est passé maintenant à 40 salariés en insertion. Donc, de 12 à 40 en quelques années. Et puis, on est 11 permanents.
Et c'est gérable quand même, entre le nombre de salariés et la quantité d'objets, de matériel récolté ?
Alors, on ne pourrait pas y arriver s'il n'y avait pas des bénévoles. En fait, ça, on a du coup une salariée qui est en charge le développement du réseau des bénévoles. Et en bénévole, ça représente comme si on avait 10 emplois temps plein répartis sur une centaine de personnes, un petit peu plus, 100, 120 personnes bénévoles qui donnent une demi-journée, certaines plusieurs jours dans la semaine. Et donc du coup, il y a voilà, une personne qui va gérer tout ce planning-là et puis l'animation aussi pour que, comme les gens ne se croisent pas forcément en même temps, voilà, qu'il y ait des temps de rencontre et sympa en fait pour se retrouver.
Ouais, justement, on va évoquer votre équipe. Hein, donc, vous me dites 120 bénévoles qui œuvrent pour la gerbe avec Quevilly ?
Tout à fait. 11 permanents. Du coup, on en a deux qui sont vraiment dédiés au projet de solidarité internationale. Donc, pour suivre les partenaires sur les différents pays. Et puis, pour préparer les papiers de douane, enfin aller chercher des financements. On en a voilà, deux vraiment dédiés pour cela. Ensuite, on a deux personnes qui sont dédiées sur le chantier d'insertion. Donc là, vraiment, tout le suivi, l'accompagnement, c'est très individualisé, en fait, pour avoir des taux de réussite de sortie positive. Ensuite, on a deux personnes qui sont sur l'aspect magasin, donc gestion des ateliers de tri et gestion du magasin. Et puis, il y a une personne sur l'entrepôt. Voilà, et puis après, le personnel administratif, secrétariat, voilà.
Et donc, du coup, les objets récoltés, valorisés pour certains, il y a une partie qui est envoyée à l'étranger et une partie qui va à la ressourcerie, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Donc, suivant ce que c'est, par exemple, tout ce qui va être électroménager, là, en fait, on a tellement de demandes de nos partenaires que du coup, on n'en vend pas. Ça part vraiment, tout ce qui est électroménager, tout ce qui va être literie, voilà, ça part directement là, pour l'international. Et puis, par contre, dans du mobilier, tout ce qui va être bibelot, voilà, plus brocante, en fait, là, on va en envoyer quand même, mais une partie va être vendue.
Et donc, du coup, avant de parler plus en détail de votre aide internationale, donc la ressourcerie, c'est finalement un magasin normal ?
Voilà, c'est un magasin normal où on invite. Alors, on a une mixité de public qui est très intéressante. Puisqu'on va avoir des personnes des quartiers, des Mureaux, des Quevilly, qui n'ont pas beaucoup de moyens et ça leur permet de s'équiper pour pas très cher. Et puis on a des Parisiens, des Versaillais, des personnes qui viennent vraiment pour chiner et pour là chercher beaucoup plus des produits type brocante, en fait, et qui sont là de manière très, très, très souvent, en fait, qui viennent régulièrement.
Et du coup, l'argent récolté lors de la
Alors,
vente ?
Sur la vente des produits, on a 50% qui sert pour la solidarité internationale. Donc, ça nous donne vraiment des moyens pour les projets humanitaires. Et 50% qui sert pour le fonctionnement du chantier d'insertion.
Alors justement, l'aide internationale, on y revient. Donc, on a parlé de l'Ukraine. Quels sont les autres pays sur lesquels vous intervenez ?
Alors, on travaille beaucoup aussi avec la Roumanie. Alors, qui se trouve aussi impacté par les réfugiés ukrainiens qui sont arrivés. Donc, on a nos partenaires en Roumanie qui ont leur propre programme, mais qu'on accompagne aussi sur l'aide qu'ils accordent aux réfugiés. Et sur la Roumanie, ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé de les préparer pour ouvrir eux-mêmes des ressourceries. Donc, pour l'instant, ils n'arrivent pas à trouver le flux nécessaire puisque les gens ne jettent pas comme on a l'habitude malheureusement en France, c'est-à-dire que les habits ou comme ça passe dans la famille, chacun va les continuer, donc ils n'arrivent pas encore à avoir du flux, mais ça va sans doute arriver. Et donc on a ouvert des magasins de seconde main avec nos partenaires en Roumanie, donc on a 3 partenaires qui ont ouvert ce type de magasin. Donc là, ça passe pas en humanitaire, c'est une vente à très bas prix qui comprend le prix du trajet en fait. Et l'avantage de ça, c'est qu'en fait, ça a permis de salarier des personnes sur place, donc qui étaient en difficulté, et l'argent qu'ils gagnent vient financer leur projet. Donc au lieu de financer des projets avec de l'argent qui est amené directement, ce qu'on faisait avant, c'est de l'argent qu'ils ont gagné. Et donc du coup, c'est très intéressant de les amener comme ça à produire en fait leurs propres ressources pour financer après les projets d'aide aux plus fragiles.
Ensuite, on reste dans l'Europe. Vous aidez aussi la Bosnie.
Voilà, donc la Bosnie, on a continué en fait depuis la guerre. En fait, ça a maintenu. Alors, c'est plutôt des programmes en fait envers des personnes en insertion, en fait, des jeunes qui orphelins, des sortants de prison. Là, avec une particularité aussi, c'est que le responsable de l'association que l'on soutient et qui était très très engagé en fait en Bosnie a eu un accident et s'est retrouvé en fauteuil roulant, et donc il continue son travail au sein de la structure, donc d'insertion, en étant en fauteuil roulant. Donc c'est vraiment une figure assez emblématique pour nous et qu'on poursuit d'aider. Ensuite, on a l'Albanie, en fait on continue toujours aussi. Donc ça, c'est un gros projet en fait par rapport aux enfants des rues. Et un centre de colonies de vacances qui accueille aussi tout un tas d'enfants qui ont vécu des très gros traumatismes. Donc c'est voilà. Et beaucoup aussi par rapport aux tziganes, en fait. Ça, c'est une problématique qu'on va retrouver en Roumanie ou comme ça. Donc c'est des structures qui accompagnent ces populations-là.
Et vous aidez aussi quelques pays d'Afrique.
Voilà, donc on a surtout sur la RDC, en fait, donc là c'est un petit peu plus compliqué de faire du transport de matériel. On en fait un tous les 4-5 ans peut-être, puisque ça coûte beaucoup plus cher. Donc c'est du matériel très spécifique en fait de grande valeur par rapport au coût du voyage. En fait, c'est un hôpital qui est dans le centre du pays par un médecin qui s'occupe des femmes victimes de violences, et donc il répare ces femmes. Et pour donner un peu une idée, en fait, sur son territoire, c'est à peu près grand comme l'Île-de-France. Il est le seul spécialiste. Et donc, il y a des personnes et des femmes qui viennent pour être opérées, qui ont fait 300 km à pied. Le record, je crois, c'est une femme qui a fait 700 km à pied, ou en étant portée par deux hommes sur un brancard, mais amenée comme ça à pied, en fait, par des personnes. Donc, c'est assez impressionnant, en fait, le travail qu'ils réalisent sur place.
Et puis vous aidez aussi le Maroc, de quelle manière ?
Alors le Maroc, c'est à plus petite échelle en fait, et là c'est du soutien aux activités artisanales, en fait au démarrage d'activités artisanales. Voilà.
Alors on a parlé du bénévolat tout à l'heure, vous recherchez évidemment des bénévoles.
Voilà, donc ça c'est toujours quelque chose que l'on recherche. Donc des personnes qui viennent, qui donnent un petit peu régulièrement du temps. Donc ça peut être même une demi-journée par mois, comme ça. Ce que l'on voit pour ces personnes qui s'engagent, c'est, mais en fait on reçoit aussi beaucoup d'une part le public en insertion, parce que ce brassage-là est très intéressant, de brasser le public en insertion avec des bénévoles qui sont en activité aussi. Ça peut être des personnes qui prennent du temps alors qu'ils sont en activité. Et puis aussi les rencontres avec nos partenaires à l'étranger. Comme on ne peut pas envoyer notre public en insertion ni nos bénévoles tous en mission, on essaye de favoriser plusieurs fois par an, en fait, de faire venir nos partenaires pour qu'ils puissent se présenter, et ou par visio aussi pouvoir voir l'impact en fait du travail sur le terrain. Et comment ce qu'on va faire ici, en fait, peut changer des vies sur place.
Et en plus des bénévoles, bien évidemment, vous n'êtes pas contre des dons.
Alors, on n'est pas contre des dons. C'est tout à fait possible de faire des dons, et c'est ce qui permet à l'association de vivre aussi, et puis d'appuyer les partenaires sur place. Donc, tout à fait. Donc, ça, c'est même possible en ligne sur le site lagerbe.org. Et voilà, il peut y avoir des collectes en fait en ligne dédiée, en fait, comme par exemple actuellement sur l'Ukraine, où là on a vraiment sur un pays, mais ça peut être aussi de manière générale sur l'ensemble des projets par rapport à la situation en général.
Il y a une autre action qui est apparue dernièrement au sein de la Gerbe, c'est le recyclage des cartons pour en faire des litières équines. Détaillez-nous un petit peu ce que c'est.
Alors, comme bien souvent, en fait, c'est souvent face à une difficulté qu'on essaye de trouver des solutions. Et puis, en fait, des fois, ça nous emmène bien plus loin que ce qu'on aurait imaginé. Là, on avait énormément de cartons et on paye pour évacuer nos cartons. Et on se disait, mais qu'est-ce qu'on pourrait en faire d'autre? Donc, on a embauché une personne pour faire de la recherche et développement sur ce sujet-là. Et on a découvert qu'on pouvait le transformer en litière. Ce qu'on a découvert aussi, c'est que cette litière, elle est bien plus intéressante que la paille, puisqu'elle l'absorbe beaucoup plus et que le cheval est beaucoup moins allergique que les litières de paille. Et ensuite, on a aussi vu que ça pouvait servir pour les lapins, pour les poules. Elle est vraiment très adaptée. Et qu'ensuite, ce n'était pas juste une problématique de la ressourcerie, mais c'est une problématique de territoire. En fait, on a énormément de cartons avec un coût de destruction. Et donc, comment on pouvait transformer ça? Donc, ce projet qui, au début, était juste de trouver une solution pour la ressourcerie, devient aujourd'hui un projet à part entière, donc une vraie structure. Donc, ça s'appelle Copeaux des Mureaux. On termine l'incubation et ça devrait créer une vingtaine d'emplois, en fait, d'ici... voilà, l'année prochaine, en fait, voilà, c'est déjà opérationnel, on peut déjà, donc toutes les personnes qui ont des poules, des lapins, parce que tout le monde n'a pas forcément un cheval chez soi, voilà, même pour les petits animaux comme ça, c'est vraiment une litière qui est très intéressante et qui consomme moins, en fait, on en utilise moins que la litière normale, habituelle.
Merci à vous, Jean-Marc Sémoulin, d'avoir accepté notre invitation.
Un grand merci à vous.
C'est la fin de cette émission. Vous pouvez l'écouter le samedi à 15h et le jeudi à 19h30. Et vous pouvez retrouver cette interview en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle association. Très bonne journée à l'écoute des programmes de BPM.